Phil PM. La voix est libre.
Nous n'avions plus d'alternative. Un système de radiodiffusion profitant uniquement à un seul joueur dominant, Bell.
Voici Luc Lavoie.
Pierre-Carl Péladeau devant le CRTC ce matin. Puis là, ben, il évoque ouvertement, Luc Lavoie, Péladeau évoque ouvertement la mort de TVA Sport.
Ah ouais, TVA Sport, depuis son lancement, a perdu 25 millions. 25 millions de dollars. C'est beaucoup demandé aux actionnaires de TVA, et il le soulignait lui-même devant le CRTC ce matin, M. Péladeau, de demander aux actionnaires de TVA de continuer à ce rythme-là. Tu peux pas comme ça éternellement perdre l'argent, perdre l'argent. Maintenant, alors, il l'a retiré. Que s'est-il passé?
Oui, c'est
ça. Il y a
ça.
Des négociations avec Bell, et ça va pas dans la direction où il veut que ça aille.
Parce que Bell, dans le fond,
jouit de privilèges bâtis sur des années de monopole. OK? Donc, il y a une espèce de tarification qui est propre à Bell, mais que Bell n'applique pas aux autres en disant, ben nous autres, ça fait plus longtemps qu'on est là. À quoi?
Puis le CRTC accepte ça.
Ben, le CRTC est pris un peu dans ses contradictions à l'heure actuelle. Tu sais, il met en place une réglementation, puis à un moment donné, le marché se modifie un peu, puis il n'adapte pas complètement sa réglementation. Alors, le CRTC est un peu mal pris dans ça, est en fait très, très mal pris. En réalité, il dispose de pouvoirs très, très étendus. Il pourrait lui-même retirer des mains de Québécois dès aujourd'hui la licence de TVA Sport. Il pourrait dire, c'est fini.
Il a menacé le président du CRTC.
Il a rappelé qu'il disposait de ces pouvoirs-là. C'est à quoi M. Péladeau... Le pouvoir du CRTC étant basé sur l'idée suivante. Quand il y a négociation entre un distributeur puis un vendeur, c'est-à-dire entre un câbleau distributeur puis le producteur de TVA Sport ou le producteur de RDS ou peu importe, il doit y avoir statu quo ante. Donc, ce qui était en place avant que la négociation commence reste en place et tu ne peux pas menacer de retirer ton signal ou, pire encore, le retirer. Or, Québécois a fait les deux, a menacé et a retiré le signal du système de distribution de Bell TV.
Et là, il plaide que c'était nécessaire pour obtenir un nouvel arrangement.
Ben, c'est-à-dire que oui. Et là, Bell s'est en allé immédiatement devant la Cour supérieure, a obtenu une injonction valable, je crois, pour 11 jours. Et le CRTC a convoqué ce qu'on appelle, dans le jargon de la réglementation du monde réglementaire, un show cause qui consiste à dire « Viens m'expliquer pourquoi fait tu m'as désobéi. » Puis l'autre qui a été victime de ta désobéissance vient m'expliquer pourquoi tu penses que c'est inacceptable. Alors, Bell, aujourd'hui, a carrément demandé au CRTC de retirer la licence de TVA Sport.
Vraiment?
Oui, carrément. Le porte-parole de Bell a dit qu'il faut leur retirer leur licence parce qu'ils ne veulent pas obéir aux lois et à la réglementation. À quoi M. Péladeau a répondu, écoutez, si vous allez aller dans cette direction-là, on va fermer TVA Sport.
Mais là, ça a des conséquences. Fermer TVA Sport, Luc, là, d'abord, il y a pas mal de monde qui travaille là, mais c'est parce que moi, j'ai toujours pensé que TVA Sport, les droits que Québécois avait achetés pour diffuser les matchs de la Ligue nationale, c'était parce qu'ils allaient chercher l'équipe, ils allaient chercher Nordique.
Attends, ils avaient un grand plan, et le grand plan est en train de tomber en morceaux. Le grand plan, c'était, d'abord, comme tu sais, il y a 82 parties par année dans la Ligue nationale. Pendant la saison régulière, Québécois a 20 fois les Canadiens de Montréal, puis tous les autres matchs tant qu'ils veulent. Mais seulement 20 fois les Canadiens de Montréal, parce que ce sont des droits locaux. Mais TVA a le monopole sur toutes les séries de fin de saison, tous les matchs. Non seulement le monopole, mais a l'obligation de les diffuser. Ça coûte cher, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Ça fait 2 années de suite que les Canadiens n'ont pas été en série. Les séries pour les Canadiens de Montréal, c'est des codes d'écoute qui montent de 2 millions. Alors que là, ben, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est des matchs...
Coupe de 100 000.
Ben, ouais, 200, 225 000, tout ça. Alors, tout l'édifice qui s'était bâti, pourquoi il a payé si cher pour ces droits-là? Parce qu'il pensait que ça allait s'ajouter aux droits qu'il détiendrait forcément sur son équipe à Québec. Il voulait avoir une équipe à Québec de la LNH.
Fait que TVA Sport aurait diffusé
les
matchs des Nordiques.
Voilà.
Plus les matchs du Canadien, voilà. Les fins de semaine puis pendant la série.
Voilà.
Fait qu'il allait faire de l'argent avec ça.
Il allait faire de l'argent avec ça, sauf qu'il n'a pas d'équipe à Québec. Puis il n'y a personne qui voit le jour où il va avoir une équipe à Québec. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rêver puis dire, ben là, peut-être qu'on va déceler dans les propos de M. Daly ou M. Bettman, les deux grands dirigeants de la Ligue nationale, quelque chose comme une petite lueur d'espoir. Il n'y en a pas de lueur d'espoir. Ils ne veulent pas de club à Québec. Ils ne veulent pas de club à Québec parce que ce n'est pas un assez gros marché pour eux autres. Puis ils pensent que ça va simplement nuire aux Canadiens de Montréal. Puis ce n'est pas les Canadiens qui font le lobby. Ça, je le sais, je connais la famille Molson personnellement. Ils font pas obstruction du tout. C'est la Ligue nationale qui dit non, j'en veux pas. J'en veux une équipe à Seattle, hein, puis je veux une équipe à Las Vegas.
Tu penses que la Ligue nationale est convaincue que Québec peut pas faire vivre une équipe? C'est ça que tu dis?
Québec pourrait théoriquement faire vivre une équipe. C'est pas pire que Winnipeg. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est quelle sera la valeur que cette équipe-là va apporter à tous les autres propriétaires? Il y a un système de redistribution des revenus dans ça. Et les Nordiques de Québec ne pourraient être rentables qu'en bénéficiant de cette espèce de péréquation. En fait, les équipes de la Ligue nationale disent « Moi, j'ai envie de payer pour eux autres. Ça ne m'intéresse pas de payer pour eux autres. On le fait assez avec Winnipeg. Je ne vais plus faire ça. Mais on ne fait plus ça. Nous autres, on ne paye plus pour eux autres. » Alors, on va se retrouver avec quoi? Le monopole va renaître, si on en vient là. RDS va reprendre pied en étant le seul dans le marché. Va reprendre tous ses droits-là. Les gens vont avoir moins de choix, vont avoir moins d'accès à des produits. Le monopole n'a jamais bien servi les consommateurs. Puis en même temps, M. Péladeau, lui, si on le force, par exemple, si le CRTC met sa menace à exécution puis tire sa licence, tout ça, il ne se battra pas pour la garder, il va fermer. Il dit c'est merci.
Quand Péladeau, Pierre-Carl Péladeau menace de fermer...
Il joue qui tout double. C'est un joueur, Pierre-Carl. Hein? C'est un joyeux gambler quand il s'y met, je parle en affaires.
Oui, oui.
Et là, il joue qui tout double.
Fait qu'il dit.
Ou le CRTC, tu changes.
Les règles, et
tu fais en sorte que je vais avoir assez de revenus pour vivre. Ou bien alors, je sacre mon camp.
Parce que je perds d'argent.
Je perds de l'argent, puis 25 millions, là, TVA, c'est pas... Tu sais, on pense à TVA comme une espèce de machine à imprimer du cash. Dans l'Empire québécois, TVA, ça, fin de l'année, ça représente un... 1,5% des revenus, peut-être, des profits, je m'excuse. C'est pas si gros que ça. Alors, demandez aux actionnaires de TVA d'avaler des pertes annuelles qui montent jusqu'à 15, puis 20 millions, puis 10, puis 12 millions, puis en plus de tomber encore une saison qui se termine avant les séries pour les Canadiens de Montréal, donc une perte d'argent énorme pour TVA qui est maintenant obligé, en vertu de son contrat...
De continuer à diffuser
tous les matchs. Tous les matchs. Il y a parfois des quatre matchs par jour.
Ah ben oui.
Les coûts de production de tout ça,
hier soir, c'était ça, là. T'avais deux matchs en même temps.
Oui, oui, tout le
temps. T'avais Pittsburgh sur un bord, t'avais Tampa de l'autre bord. Puis après ça, c'était quoi?
T'avais Dallas.
Calgary, je pense.
Je sais pas lequel, mais...
Oui, en tout cas, les deux dans l'Ouest, là.
Alors, M. Péladeau a décidé de jouer, Pierre-Carl a décidé de jouer qui est tout double. Qu'est-ce que le CRTC va faire? Il va être mal pris parce que le CRTC...
Il veut pas que ce TVA Sport crève, lui, me semble.
Ben non, il veut pas. Mais en même temps, il veut pas se faire faire un doigt d'honneur en disant, regarde, quand les règles font pas ton affaire, qu'on tourne-les. Alors, il est pris dans un... Ce que le CRTC souhaiterait du fond de son cœur, c'est que on fasse une pause, puis qu'ils se retrouvent les deux parties dans un coin du même édifice, puis qu'ils disent, regarde, on règle tout ça, là. On règle ça comme ci, comme ça, on revient devant le CRTC.
Mais visiblement...
Mais Belle veut rien entendre, parce que Belle en veut énormément à Péladeau et à Québécois, parce que quand Belle s'est portée acquéreur des chaînes de Astral Media, qui en faisait quasiment pas un monopole, mais un dominant comme c'est pas possible, Pierre-Carl a financé, mené, tambour battant, une campagne pour que cette transaction-là soit refusée, et il a gagné. Alors, Belle, cette transaction-là, qui a été obligée de revenir au CRTC, de se conformer à toute une série de conditions, et qui, en bout de ligne, ça avait coûté à Belle toute la campagne que Québécois avait menée pour empêcher que le CRTC approuve cette transaction, ça avait coûté 150 à 200 millions de dollars à Belle. Alors, Belle, ce sont les mêmes joueurs. Je les regardais à l'époque, je travaillais chez Québécois quand tout ça s'est passé. Je regardais Mirko Bibic, c'était le même qui était là, il parlait au nom de Belle, c'était le même qui était là à l'époque. Ce sont les mêmes joueurs.
Ils ont décidé
c'est
de
comme
régler
un round 2.
Le... Oui, j'allais le dire.
C'est le round 2.
C'est la revanche, là.
Oui, c'est la revanche. Et je dois dire que M. Péladeau, dans le style qui est le sien, a joué des cartes assez brillamment. Tout en sachant que c'est... audacieux, pour ne pas dire téméraire, pour ne pas aller encore plus loin.
Il a très qu'il a joué assez brillamment?
Pendant un mois, il y a eu un espèce de build-up.
Oui, OK.
Un petit site web qui a été créé, des annonces, des ci, des ça. Jusqu'à temps qu'il y a une sorte de mobilisation ou enfin de prise de conscience qu'un problème existait. Puis au moment où la pression commençait à monter, il l'a monté très, très fort. Il a fait monter la chaleur. On ne peut pas dire que les gens ont été privés de grand-chose, là, franchement.
Bien, ils ont été privés de leur hockey en français?
Pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Ouais. C'est ça qui a été la vérité. Là. Ça a été privé pendant 24 heures. C'est un coup de force. C'est un coup de force contre le CRTC. Mais le CRTC, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Le CRTC réglemente quelque chose qui existe de moins en moins. Tu sais, présentement, là, tout le système de télédiffusion mondiale, et certainement le nôtre, est en train de vivre une révolution. La révolution provoquée par Netflix.
Ben oui, puis tous les autres qui embarquent derrière. La révolution numérique.
Amazon, c'est
ben
ça.
Oui, ben
alors,
oui.
Alors, mais eux autres, ils sont pas soumis à aucune réglementation. Ils n'ont pas de redevance de ci, ils n'ont pas de redevance de ça. Ils vendent direct au consommateur. Et le consommateur, il achète un accès Internet, puis c'est tout. Alors, le CRTC est assis là. Je ne peux pas les blâmer personnellement. La loi n'a pas été changée. La loi ne reflète plus la réalité du marché moderne.
Puis tu peux jusqu'où tu peux réglementer ce nouvel univers
tu peux
aussi?
Pas.
T'sais, c'est
tu
ça le maudit
pas
problème.
Et le CRTC, souvent, comme toutes les organisations réglementaires, à un moment donné, est obligé de justifier son existence. Dire, ben écoute, j'ai pas tous les outils, mais j'ai des vieux outils de l'ancien temps. Je vais te les appliquer pour te fermer TVA Sport. C'est que le CRTC ne correspond plus, il a été créé, s'est développé et a évolué dans un environnement qui est en voie de disparition. Ça ressemble un peu à la question des taxis, là, évidemment.
Ouais, ouais.
Ça a été pris par un tsunami qui a passé par-dessus le système de radiodiffusion.
Par-dessus l'industrie, ben oui.
Et là, tout ce qui reste de revenus pour un TVA Sport... Ben, c'est Bell qui décide qu'ils ne payent pas. Ils veulent pas mettre la station TVA Sport dans le forfait le plus populaire qu'ils offrent à leur clientèle.
Exact.
Alors que Québécois dans...
Le fait pour RDS.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Et deuxièmement, Bell paye à TVA...
Beaucoup moins.
C'est à peu près une pièce, à peu près 25% de moins, effectivement.
25 que les autres distributeurs.
Payent pour TVA Sport.
Ouais,
alors,
ouais.
Alors, M. Pelladeau... J'ai beaucoup travaillé avec lui, Pierre-Carl, dans exactement ce genre de dossier dont j'avais les responsabilités. Des coups de force comme ceux-là, on en a tenté plusieurs, puis on en a réussi quelques-uns. Puis dans celui-là, j'ai hâte de voir comment le CRTC va réussir à danser, parce que ça ne sera pas facile. Il peut se prendre une position purement légaliste puis dire c'est ça la loi, puis ça finit là, puis bang, je t'enlève ta licence, ou je te donne un mois, ou je ne fais pas des choses comme ça. Ou alors, il peut devenir un peu plus politique. Puis dire, je profite de la décision que je rends ici pour dire à mon législateur, celui qui m'a créé, que ça ne marche plus. Là, c'est plus les outils.
Oui, mais ça ne règle pas ton problème si tu es TVA Sport.
Oui, mais c'est parce que c'est TVA
Sport. Peux-tu tenir tête à Bell, puis peux-tu imposer des conditions que Bell... Il peut-tu faire payer à Bell des redevances plus élevées que celles qui sont prêtes à payer dans la négo avec Pelladeau?
Il y a un contrat, ils sont supposés de respecter le statu quo d'avant le contrat. Et on parle beaucoup de TVA Sport ici, Bernard. Parce que c'est le plus visible, puis on est dans les séries de la Coupe Stanley, mais ça concerne également LCN, puis d'autres des chaînes spécialisées. LCN a presque deux fois la part de marché d'RDI, puis reçoit à peu près la moitié des redevances mensuellement. Est-ce normal? Je pense pas.
OK.
Sur le fond, il a raison. Sur la méthode, ben c'est pas exactement orthodoxe, mais il a jamais rien fait de comme les autres, Pierre-Carl.
Oui, ça c'est vrai. On va s'arrêter, parce qu'au retour... Ça nous arrive, Luc et moi, vous le savez, on est deux amateurs de hockey. Avez-vous suivi la série Tampa Bay contre Columbus? Avez-vous suivi ça? Avez-vous vu ça, l'élimination en quatre matchs? Luc veut nous en parler.
Première fois de l'histoire de la LNH.
Que le gagnant de la Coupe du Président est éliminé en quatre matchs.
Que le premier de la saison soit éliminé en quatre matchs.
Voilà. On va prendre vos appels, OK? Quelques appels, comment vous réagissez à ça après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
We lost, in the playoffs. If you don't accomplish your goal of winning it all, it's a failure. I mean, we don't care about what happened in the regular season.
Voici Luc Lavoie.
Steven Stamkos, le grand joueur de Tampa Bay du Lightning, donc il dit c'est un échec.
Ben
c'est un échec.
Incroyable, c'est parce que. Ils ont fini la saison, les Lightning, avec 128 points. Quatrième plus haut pointage dans une saison de l'histoire de la Ligue nationale. OK? Ils étaient dominants. C'est incroyable.
Tout le monde les voyait en finale de la Coupe, sinon gagnant de la Coupe.
Tout le monde, y inclus moi-même, se disait, mais ils sont impossibles à arrêter, tellement ils sont bons, tellement ils sont puissants à toutes les positions. Là, tout à coup, qu'est-ce qui arrive? D'abord, en fin de saison, ils doivent s'être endormis un peu. Ils étaient tout seuls, eux autres, puis ils étaient déjà qualifiés. Pendant ce temps-là, les Blue Jackets venaient de faire un brassage des affaires de fond en comble. Ils ont ajouté Matt Duchesne, ils ont décidé de garder Panarin alors que la logique, il aurait dû le laisser aller. Ils ont gardé Bobrovsky, la même chose s'applique. Ils ont cherché Mark Stone. Ils ont des joueurs superbes comme Seth Jones, tout ça qui joue extraordinairement bien. Alors, Columbus, eux, c'est la dernière équipe qualifiée, puis il a fallu qu'ils vivent une grosse montée en fin de saison. Et c'est comme si le coach Tortorella, que j'aime pas personnellement, parce que je trouve tellement que c'est un arrogant,
ouais,
mais en gros, il a fait prendre le jello exactement
juste au bon
moment.
Ronnie nous écrit, il dit... Le point tournant de cette série, c'est le speech de Tortorella au premier match, première période, quand c'est 3-0 pour le Lightning.
Ça doit effectivement être le moment où tout a viré de bord. Hein, parce que, oublie pas que Tampa Bay a dû jouer sans les services pour deux des quatre matchs de Victor Hedman. Et dans les deux autres matchs, Hedman était clairement quelqu'un qui n'était pas l'ombre de lui-même. Il avait subi une commotion cérébrale, deux encore cette année. C'était la quatrième ou cinquième de sa carrière. Victor Hedman, c'est pas n'importe quoi, c'est probablement c'est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur défenseur de Ligue nationale.
L'est-il encore? C'est ça, là.
Comment il va s'en remettre. Et Columbus, de l'autre côté, écoute,
ils ont piqué, là, juste au bon moment. C'est-tu ce qu'Alain Crête me disait ce matin? Il me disait, tu sais, Bernard, il dit, toutes les équipes vivent un creux dans une campagne, dans une saison.
Et Tampa Bay en avait pas vécu.
Ils ont vécu leur creux.
Là.
Là, mon vieux.
Exactement là.
Puis sais-tu quoi?
Et au même moment, Columbus a vécu le plus gros high de l'histoire de la concession.
Et voilà.
Et là, monsieur, là, on est mieux de surveiller ça. Tout est permis maintenant dans la Ligue nationale avec la parité. Mais surveille Columbus, ils vont arriver dans la deuxième série avec un momentum.
Le couteau.
Ah, mais écoute.
Le couteau entre les dents.
Ils ont tout ce qu'il faut. Quand Bobrovsky est à son meilleur, il est presque aussi bon que Carey Price. Seth Jones, là, qui était un premier choix au repêchage, c'est devenu un défenseur offensif redoutable.
Alors, on a des appels. Là. Tony, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute.
Finalement, j'ai réussi à vous parler, mon cher monsieur.
Allez-y, mon cher.
Je vous adore à tous les deux, et je vous suis n'importe où vous allez.
Merci, vous êtes gentil.
Bernard, t'as entendu, il a dit tous les deux.
Oui,
pas de chicane, là. Écoutez, moi, je suis un amateur de soccer.
Oui.
Puis, ma grosse déception, c'était quand on a eu l'affaire avec la Juventus, qu'il y a eu de l'argent qui était coulé à flot, là.
Oui. Mm-hmm.
Puis là, ça me surprend pas qu'il soit arrivé un deuxième événement comme celui-là avec le hockey. Parce que je peux pas croire que Tampa, là, il n'y avait pas de sang dans les veines. Là.
Ouais,
c'était endormi, c'était gelé bien raide. Là.
Mais vous n'êtes pas en train de dire qu'il y a eu de la malversation, là, vous?
Disons, moi, là, moi, je pense que maintenant, l'espoir, là, c'est plus l'espoir comme c'était dans le temps, OK?
J'ai toujours
suivi l'espoir.
Vous pensez, Tony, qu'il y a eu de la magouille?
Oui.
Oh là là. Non, là-dessus, je dois dire que je suis pas d'accord, moi.
Ben, on n'a pas de preuve de ça. Mais on n'avait pas non plus pour le Juventus. Et puis, finalement, on a découvert qu'il y en avait eu de la magouille. C'est sûr qu'il y a... Je suis pas en train d'accréditer la thèse de Tony.
La Juventus qui a perdu hier pour qui s'en ira pas en demi-finale de la Ligue des Champions.
Ouais.
Cristiano Ronaldo a ramené un peu au ras des pâquerettes.
Mais... Tu sais, le sport, maintenant, c'est devenu tellement de gros business. Et les paris sportifs, c'est tellement immense. C'est tellement gros. Il y a de l'argent à faire en magouillant avec le sport, là. Il y a de l'argent. Je suis pas en train de dire que c'est ça ici.
Bernard,
là.
Fais attention. Isole tes paroles pour les faire jouer à l'occasion.
Oh,
il y a de l'argent à faire à magouiller dans le sport. Tu l'as dit, là, OK, entre guillemets.
Oui, je l'ai dit. Écoute ça. Imaginez si. C'est un auditeur. Imaginez si le Canadien avait empêché Columbus d'aller en série. OK? Imaginez maintenant si Columbus gagne la Coupe.
On va finir par se demander si les Canadiens l'auraient gagné
aussi.
Ben,
qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je pense pas. Je pense pas, parce que franchement, là...
On était hot à la fin.
Kekäläinen, là, qui est le seul Finlandais à diriger une équipe de la Ligue nationale comme directeur gérant, il a fait un pari incroyable. C'est qu'aujourd'hui, dans le hockey, t'as une fenêtre à cause du plafond salarial et tout ça. T'as une fenêtre de réussite. Puis la fenêtre de Columbus était maintenant... ou dans 5 ans. Maintenant, parce qu'il y a des joueurs vieillissants. Maintenant, parce qu'ils vont perdre Panarin. Maintenant, parce qu'ils vont perdre Bobrovsky. Maintenant, pour toutes ces raisons-là, et ça a donné ce que ça a donné. Je pense pas que les Canadiens auraient si mal fait que ça contre Tampa Bay. Tampa Bay aurait probablement été aussi léthargique qu'ils l'ont été. Ils auraient pas gagné en 4, puis ils auraient pas eu le momentum, puis ils ont pas l'équipe pactée qu'on a maintenant.
Moi, je vais te dire...
Panarin, c'est tout un joueur
d'hockey. On a gagné contre Tampa Bay. C'est après qu'on a perdu contre Washington. Puis d'ailleurs, je te l'avais dit en ondes, j'ai trouvé que Washington avait pas mal plus de force puis d'énergie que Tampa, qu'on avait battu.
Oui, tout à fait.
OK? Et franchement, si on avait gagné, si on avait fait série à la place de Columbus, je suis pas sûr qu'on n'aurait pas sorti Tampa. Pourquoi Tampa aurait été meilleur contre nous autres?
J'ai pas dit qu'on les aurait pas sortis, mais je pense pas qu'on aurait eu le momentum jusqu'au fond.
En tout cas, comme nous écrit un auditeur, ironie suprême, la dernière équipe championne de la saison régulière à avoir gagné la Coupe, c'est qui en 2004? Les Lightning.
Les Lightning de Tampa Bay. Mais oui, avec Vincent Lecavalier puis Brad Richard. Deux formidables joueurs, parce que sais-tu pourquoi? Ils ont joué le hockey junior à Rimouski.
Ah,
Rimouski est une pépinière de toutes sortes de grandes réussites. Comme
c'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'eau là-bas.
Sidney Crosby aussi.
Il y a quelque chose dans l'eau là-bas. Puis Madonna. Madonna, là.
Elle n'est pas à Rimouski, elle, là.
Mais c'est d'elle dont on va parler après la pause. C'est la meilleure manière de t'arrêter. À demain.
Bye.